C'était la crise. Vous vous souvenez? Cela se passait jadis, il y a une éternité, l'année dernière. La crise. On ne parlait que de ça, mais sans savoir réellement qu'en dire, ni comment en prendre la mesure. On ne savait même pas où porter les yeux. Tout donnait l'impression d'un monde en train de s'écrouler. Et pourtant, autour de nous, les choses semblaient toujours à leur place, apparemment intouchées. Je suis journaliste. J'ai eu l'impression de me retrouver face à une réalité dont je ne pouvais pas rendre compte parce que je n'arrivais plus à la saisir. Les mots même m'échappaient. Rien que celui-là, la crise, me semblait tout à coup aussi dévalué que les valeurs en bourse. J'ai décidé de partir dans une ville française où je n'ai aucune attache pour chercher anonymement du travail. La ville de Caen m'a semblé la cité idéale. Ni trop au nord, ni trop au sud, ni trop petite, ni trop grande. J'avais décidé d'arrêter le jour où ma recherche aboutirait, c'est-à-dire celui où je décrocherais un CDI. Ce livre raconte cette quête, qui a duré presque 6 mois, de février à juillet 2009. Les noms des personnes et des entreprises ont été volontairement modifiés. À Caen, j'ai gardé ma chambre meublée. J'y suis retournée écrire ce livre. Florence Aubenas.
Le quai de Ouistreham, de Florence Aubenas, adaptation Nadine Hegels. Troisième épisode.
J'ai une offre à vérifier pour un camping à Blainville. Je décide d'aller directement à la société de nettoyage L'Immaculée, à Caen, qui a passé l'annonce. Madame Fauveau reçoit dans un bureau si exigu qu'il paraît ouvrir directement sur le trottoir. Deux candidates sont déjà en train de lui expliquer qu'elles sont prêtes à tout, disponibles même le dimanche, avec des compétences transférables. On a dû faire le même stage. Je me vois mal partie. C'est mon tour. Madame Fauveau a un visage allongé et un peu triste, aux traits estompés, comme fondu par la vie. Elle lit mon CV d'une voix étonnamment douce.
Est-ce que je peux savoir pourquoi vous n'avez pas travaillé pendant plusieurs années ?
Je lui raconte l'histoire de la femme du garagiste.
Vous touchez quoi ? Les allocations chômage ?
Non, rien.
Même pas le RMI ?
Je bafouille que je ne préfère pas. Elle lève sur moi des yeux fixes et pensifs.
Un poste pourrait vous convenir. Un camping appelé le Cheval Blanc, dans un bourg vers la côte de Nacre. Ce serait un contrat de 3h15, chaque samedi matin, avec un covoiturage organisé par la société dans l'une de ses propres camionnettes. Il faut d'abord que je parle de vous au patron. Lui seul donne le feu vert. Revenez samedi.
Je n'arrive pas à me dire que ça va marcher. Quand Madame Fauveau me rappelle 2 jours avant le rendez-vous du Cheval Blanc, mon cœur se décroche dans ma poitrine. Nous échangeons quelques formules banales et j'attends le moment où elle en viendra au fait. Mon embauche au camping est annulée, forcément. Sinon, pourquoi me téléphonerait-elle ?
Est-ce que vous pouvez être au bureau à 8h30 demain ? Il y aurait une mission d'une matinée à assurer, en plus du camping, bien sûr.
Devant l'agence, donc, à 8h30, nous nous retrouvons à 3. Madame Tourlaville et moi sommes agents de propreté, toutes deux à l'essai, tandis que Jean-Marie nous dirigera. Il a enfilé une longue blouse grise. Son petit visage boucané, ridé, est étrangement coiffé de cheveux épais, restés très bruns. Il nous fait monter dans une camionnette dont un des flancs porte l'inscription « L'Immaculée dans la propreté depuis 1943 » et l'autre « L'Immaculée divinement vôtre ». Nous arrivons devant une petite résidence tout juste construite en banlieue de Deauville. Jean-Marie nous apprend qu'il s'agit de donner un dernier coup de balai à une quinzaine d'appartements avant que les propriétaires s'y installent. Nous nous retrouvons rapidement, Madame Tourlaville et moi, à 4 pattes derrière lui. Il pousse une brosse électrique aspergeant de jets d'acide les grosses dalles d'ardoise du sol, tandis que nous grattons au couteau les taches récalcitrantes laissées par les ouvriers. Tout en manœuvrant l'engin, Jean-Marie nous jette régulièrement des coups d'œil par-dessus l'épaule. L'irritation rétracte sa figure, qui en paraît encore plus petite. Il débranche la machine, nous prend le couteau des mains et nous montre à quel point nous nous y prenons mal. Dès qu'il remet la brosse en marche, Madame Tourlaville ronchonne.
S'il sait tout mieux que nous, il n'a qu'à le faire lui-même.
Elle est courte, la chair robuste, les cheveux taillés nets autour d'un visage auquel des taches de rousseur donnent un air de galopin. Jean-Marie est de plus en plus nerveux.
Le patron va arriver.
Nous grattons depuis une bonne heure quand il finit par apparaître. Jean-Marie arrête à nouveau la machine et nous présente, toujours accroupi.
Voilà Monsieur Mathieu.
Mesdames, ne vous dérangez pas. Mes hommages.
C'est un grand jeune homme, bronzé, au ton affable, vêtu d'un pullover de sport clair, qui fait teinter dans sa main les clés de son 4x4. Au premier abord, il ressemble à un de ces dirigeants d'entreprise dont les photos illustrent régulièrement les magazines économiques pour cadres. À bien le regarder pourtant, il n'en a pas l'assurance, mais au contraire quelque chose de raide, d'emprunté. On devine que ce milieu des gens du ménage n'a pas toujours dû être le sien. Nous avons cessé de gratter pour le saluer. Nous le regardons dans les yeux et le patron semble soudain plus mal à l'aise debout que nous deux à genoux.
Jean-Marie, il faut mettre davantage d'acide, voyons.
Jean-Marie court vers un bidon et vaporise généreusement les dalles d'un liquide à l'odeur épouvantable. Plus tard, le patron me ramène dans sa voiture.
Et vous, vous travaillez aussi pour d'autres employeurs ?
Je lui parle de Ouistreham. Il manque s'étrangler.
Mais c'est un endroit monstrueux. Ce sont des voyous. Enfin, c'est ce que tout le monde dit. Je n'en sais rien, au fond.
Moi, ça me convient, en tout cas pour l'instant. Il me regarde comme si j'étais une possédée.
Comment pouvez-vous dire ça ? Vous me découragez. J'essaie de faire exactement l'inverse à l'Immaculée. Je veux que les gens soient bien chez moi, dans la dignité, qu'ils soient respectés. C'est primordial pour moi.
À l'Immaculée, Monsieur Mathieu s'occupe des fournitures et surtout prospecte les nouveaux clients. Il parle fièrement du cheval blanc, le camping, le dernier contrat qu'il a négocié, laissant entendre qu'il a décroché un bon coup.
Vous verrez, c'est vraiment tranquille là-bas. Vous en aurez pour 3 heures maximum, et votre contrat prévoit 3h15. Les vacanciers doivent rendre les bungalows propres s'ils veulent récupérer leur caution, alors ils nettoient tout. Votre boulot consiste juste à repasser derrière. Vraiment tranquille.
Samedi matin, au cheval blanc, je retrouve Madame Tourlaville, qui fait elle aussi partie de l'équipe. Deux dragons femmes font tourner le camping municipal, également jeunes, mais l'une plutôt sèche et l'autre plutôt potelée, l'une blonde et l'autre brune. Elles harponnent immédiatement Madame Tourlaville, déjà venue la semaine précédente pour un ménage d'essai. Les deux dragons ont dressé la liste de ses erreurs et la déclament à la cantonade d'un ton indigné de procureur.
Vous avez mis deux alaises sur le lit du bungalow 13. Il restait de la poussière sous le canapé du bungalow 32. Le four à micro-ondes du bungalow 11 présentait des traces sur sa porte vitrée.
C'est bien vous qui avez fait le 32.
Non, ce n'est pas moi.
Si, c'était vous. Ne vous inquiétez pas, on le saura de toute manière, on a tenu des fiches.
Dans un coin de la pièce, le boulanger venu livrer le pain ne quitte pas Madame Tourlaville des yeux, secouée d'un grand rire silencieux. Il tient la boutique où elle se sert chaque matin. Elle voudrait disparaître de honte.
À 13h30, vous devrez avoir fini. Il est écrit sur vos contrats que la mission dure 3h15 et quoi qu'il arrive, vous serez payé pour 3h15 de travail, pas une minute de plus. C'est bien compris ?
Nous sommes 5 employés, nous regardons toutes par terre, sauf Madame Tourlaville qui fixe le mur droit devant elle, drapée dans un silence outragé.
Vous avez vu comment on m'a traité de Marie Cochonne devant tout le monde ?
Dehors, il s'est mis à pleuvoir violemment, avec de grands craquements de tonnerre. C'est peu dire que notre petite équipe connaît un moment d'abattement. À côté d'une zone où les vacanciers plantent leurs tentes, le cheval blanc propose une 30aine de bungalows rustiques, généralement en bois. Un peu cabane de trappeur, un peu cabine de bateau. Notre travail consiste à les remettre en état entre 2 locations. Chacune d'entre nous en a 4 à vérifier, de la cuisine à la literie. Alors que l'une ou l'autre est en plein travail, un des dragons surgit parfois à l'improviste. Elle nous fait compter, laver, polir une à une les petites cuillères, les casseroles, les tasses à café, toute cette brave vaisselle de ménage usée par des bataillons de touristes, comme s'il s'agissait de sa propre argenterie de famille. Je cours d'une chose à l'autre, maladroite, toujours en retard d'un reproche.
Ici, sur la cafetière électrique, on voit encore une marque brune.
Là, derrière le frigo, il faut passer un coup.
Pour faire briller les vies en inox, seul le vinaigre blanc donne des résultats impeccables. Comment vous n'en avez pas dans votre matériel ?
Les plaques électriques doivent être grattées au tampon Gex. Sec, surtout, hein, ne le mouillez pas, ça gâche tout. Voilà, regardez, c'est beaucoup plus net, non ?
Les vitres seront passées à l'eau chaude. Oui, simplement de l'eau chaude, et frottées avec un chiffon en jersey.
Comment se fait-il que nous ne sachions pas tout ça ? La gravité avec laquelle les dragons veillent aux destinées du cheval blanc et de ses bungalows municipaux serre le cœur. C'est ce qui me retient de les étrangler sur le champ. Il apparaît très vite qu'on ne tiendra jamais les horaires prévus par M. Mathieu. Voyant un drame se profiler, il a filé ventre à terre acheter des fournitures qui nous manquent et revient des cartons pleins les bras. Il en fait une fête.
Regardez tout ce que je vous ai apporté. Vous allez voir, ça va aller beaucoup mieux.
De bungalow en bungalow, nous peinons maintenant à traîner nos seaux de plus en plus lourds d'ustensiles. De son côté, M. Mathieu a entamé son propre tour d'inspection dans le sens inverse des dragons. Je m'attelle à la vaisselle du numéro 6 quand claque une exclamation derrière moi.
Oh là là, qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Pourquoi est-ce que vous lavez toute cette vaisselle? Et les plaques électriques avec un tampon Gex? C'est pas possible. Vous n'aurez jamais le temps, Madame Aubna. Allez, il faut accélérer.
Et la pomme de douche? Et le miroir? Non, pas celui de la salle de bain, l'autre dans la cuisine. Et les pieds des chaises? Et les couvertures? Vous les avez secouées dehors? Attention aux poils de chien.
Le dragon est formel et pas du tout d'humeur à plaisanter. Il faut tout faire. C'est écrit noir sur blanc dans le contrat qu'elle a signé avec l'Immaculée. Elle peut le sortir quand on veut. Je pars à la recherche de M. Mathieu. Son 4x4 n'est plus sur le parking. Il est déjà plus de 14h30. Avec les filles, on se croise furtivement entre les bungalows. C'est le meilleur moment. Puis on repart, galopant en tous sens, à garde. Au bout d'un moment, on ne cavale plus du tout. On n'a même plus la force de se faire des clins d'œil, hébétés, affolés par notre propre impuissance et la certitude de voir le retard s'aggraver. J'aperçois Françoise près du bungalow 21, une autre collègue. Elle a tout posé devant elle. Le vinaigre blanc, le détergent bio, le tampon Gex, le liquide vaisselle, le désinfectant toilette, les balais, les serpillères, les torchons, le chiffon en jersey et un tas d'autres choses que j'oublie. Tranquille, elle sort son paquet de cigarettes sous la pluie d'un geste ample. J'entends cliqueter la molette du briquet, je vois la petite flamme lutter contre le vent et l'averse, puis le tabac finalement qui s'allume. Françoise a dû être cow-boy dans une vie antérieure. Un des dragons passe à bicyclette.
Le rouleau de papier hygiénique qui a roulé devant la porte, c'est normal ?
Françoise ne tressaille pas. Elle garde les yeux fixés sur un troupeau de nuages noirs qui filent à toute vitesse le long de la ligne d'horizon. Et comme si elle était au paradis, l'éternité devant elle, elle souffle au-dessus de sa tête une volute avec un courage que nous lui envierons à jamais. On termine vers 15h30, péniblement. On n'a rien mangé depuis le matin, on n'arrive plus à porter nos seaux, on n'a même pas eu le temps d'aller aux toilettes. On sent monter une rage éperdue et désordonnée. C'est la seule fois où nous verrons les deux dragons rigoler.
Quand M. Mathieu a dit que vous auriez fini à 13h30, on savait que vous ne pourriez pas y arriver.
Au retour dans la camionnette, Françoise et moi fulminons, chacune de son côté, sans oser dévoiler ce que nous pensons. On ne se connaît pas encore assez. Elle conduit la camionnette d'une main comme si elle avait fait ça toute sa vie. On discute prudemment, à petites phrases qui finissent par faire une conversation. Françoise me raconte qu'elle avait arrêté de bosser quand elle a eu ses fils.
Et puis j'en ai eu marre de rester à la maison, ça va bien 5 minutes. Il faut prendre l'air, voir du monde. Je me suis inscrite à Pôle emploi, il y a quelques mois à peine. J'ai commencé à faire des remplacements dans une usine, la nuit. Je suis passée au ménage. Puis j'ai décroché un premier contrat à l'Immaculée, presque tout de suite. Beaucoup d'autres ont suivi. Maintenant, je suis levée à 4 heures, je ne reviens pas avant 20 heures. Je ne tiens pas à rester en bas de l'échelle, j'ai de l'ambition. Je veux monter.
Vous êtes demandeur d'emploi. Composez les 7 chiffres de votre identifiant. Sinon, appuyez sur la touche étoile. Suite à un grand nombre d'appels, votre temps d'attente durera plus de 4 minutes. Si vous le souhaitez, vous pouvez renouveler votre appel.
Sur le parking, les voitures démarrent, phares éteints. La fin des vacations ressemble toujours à une fuite générale, comme si on venait de faire un mauvais coup. Mais c'est encore plus vrai ce soir. Avant de monter à bord du ferry, le temps traîne, les conversations s'étirent de cigarette en cigarette. Là, on se jette à peine quelques au revoir, à travers les coups d'accélérateur, les klaxons, les pneus qu'on fait crisser tant qu'on peut. Dans le tracteur, au retour, Marie-Lou me demande où elle pourrait trouver un plateau de fruits de mer en promotion. Elle en a vu un à 12,90€ chez Cora, mais elle ne sait pas comment le rapporter en scooter. Et des baskets? À quel prix pourrait-elle trouver des baskets? Tout à coup, sa voix devient un murmure. Dans longtemps, dans très longtemps, quand elle aura mis des sous de côté, Marie-Lou dit qu'elle aura une maison à elle. Est-ce que je sais comment ça s'achète une maison? Combien ça peut coûter par exemple? Où faut-il s'adresser? Et puis, elle n'aura plus de chats, mais des chiens, carrément. Et puis, sa voix baisse encore un peu dans la nuit. Les réverbères de la voix rapide éclairent par saccades son visage potelé. Je vois frémir sa lèvre supérieure un peu courte, qui laisse ses dents de devant légèrement à découvert. Elle hésite, comme si elle craignait de s'être montrée imprudente en dévoilant des désirs et une ambition qui lui paraissent soudain démesurés. Et puis elle passera un diplôme pour devenir assistante maternelle agréée. Oui, un diplôme. Et elle le réussira, pas comme le CAP. Tout le monde dit qu'elle arrive bien à y faire avec les gamins. Même une cousine de son homme avec qui pourtant elle s'est brouillée à son mariage. Et elle aura des bébés à elle aussi. Alors les choses seront comme elles doivent être. Elle dit que ses yeux piquent de fatigue, qu'elle voudrait dormir mais n'y arrive pas. Tous les soirs, elle se couche à côté de son homme et joue sur le minuscule écran de son téléphone portable jusqu'à ce que l'aube arrive. Quand je la dépose, elle me demande toujours de la laisser exactement devant la porte, au cas où des jeunes feraient le bazar. Dans la nuit, le rideau de son appartement se soulève et le visage de son homme apparaît furtivement dans l'obscurité. Le lendemain, Marie-Lou démissionne du ferry. Je ne la reverrai jamais.
Qu'est-ce que vous avez comme passion ?
Je ne m'attendais ni à la question, ni à la manière de la formuler.
Qu'est-ce que vous avez comme passion ?
Elle arrête de contempler son ordinateur pour se tourner vers moi d'un mouvement vif, comme si elle s'attendait à me surprendre endormie sur mon siège. Sa queue de cheval blonde fouette l'air avec bonne humeur. Madame Astrid est toujours de bonne humeur. Elle est ma conseillère d'insertion. C'est Pôle emploi qui, le jour de mon inscription, m'a prescrit 3 mois d'accompagnement avec elle, au rythme d'un rendez-vous tous les 15 jours. Pour moi, les rendez-vous avec Madame Astrid ont toujours été de bons moments. Je n'ai pas compris tout de suite qu'elle appartenait à un cabinet privé, un sous-traitant de Pôle emploi, qui n'a pas le temps d'assurer le suivi de certains dossiers, tels les plans spéciaux ou les personnes considérées comme éloignées de l'emploi. C'est mon cas. Cela nous met un peu dans la même situation, Madame Astrid et moi. Un lien entre nous. Nous avons toutes les deux des comptes à rendre à Pôle emploi. En général, nos entretiens commencent par une conversation de circonstances sur le ménage, que Madame Astrid mène rondement, y mettant même un certain piquant.
Quand vous faites des candidatures, Madame Aubenas, qu'est-ce que vous mettez à la case motivation ?
Justement, je voulais vous en parler, Madame Astrid. Je ne sais jamais quoi écrire.
Je vous comprends. C'est vrai. Comment définir une motivation dans ce secteur ? Ici, mes collègues me disent que ça les détend de faire le ménage le dimanche. Moi, franchement, je préfère me mettre sur le canapé avec un livre.
Pour la séance d'aujourd'hui, Madame Astrid m'a demandé de lui montrer mon CV. J'ai sorti celui que j'avais laborieusement élaboré à l'atelier de Pôle emploi et auquel j'ai agrafé une photo. J'en suis plutôt fière.
Bof, on va le refaire. Vous verrez, vous aurez l'impression d'avoir changé de coiffure.
Elle s'est installée à son ordinateur. De temps en temps, elle se tourne vers moi, me dévisage d'un air inspiré, puis se remet à pianoter furieusement.
Qu'est-ce que vous avez comme passion, Madame Aubenas ?
À votre avis, quel genre de passion pourrait intéresser un employeur qui recrute une femme de ménage ?
La musique, par exemple. Est-ce que vous aimez la musique ?
J'aime nager et lire.
Ça, c'est drôle. Moi aussi. Qu'est-ce que vous lisez ?
Des auteurs classiques. Les romans du 19e siècle, surtout français ou russes.
Alors moi, pas du tout. L'école m'en a dégoûté. Je lis du contemporain, au moins 1 heure par jour et au moins 1 ouvrage par semaine. Mes amis me considèrent comme une lectrice fervente.
Et quels sont vos auteurs préférés ?
Il y en a un que j'aime par-dessus tout. Il exprime exactement ce que je ressens. Il a des mots, je ne sais pas comment vous dire. Il est sensible.
Qui ça ?
Patrick Poivre d'Arvor. Et comment vous décririez-vous, Madame Aubenas ? Avec quelle qualité ? Moi, je vous vois dynamique.
Elle tape.
Dynamique. Et vous avez un bon contact. L'esprit d'équipe aussi. Esprit d'équipe.
Le CV qu'elle me tend est une œuvre d'art, avec des colonnes différentes, des grisées. Tout naturellement, elle prend l'ancien et, d'un geste, le donne à dévorer à sa machine à broyer le papier, tapis sous son bureau comme un chien attendant un sucre. Un autre de nos usages consiste à passer en revue les offres d'emploi.
J'ai tellement l'habitude que je sais ce qu'il faut regarder. Ça ira plus vite.
Madame Astrid m'interdit de répondre à certaines annonces.
1 heure de ménage hebdomadaire dans un commerce rue de Vaucelles. Ah non, il se fout du monde. Surtout, n'y allez pas.
Quand quelque chose lui semble vraiment intéressant, Elle sort discrètement de la pièce pour me laisser téléphoner. Ça ne marche pas souvent. Les annonces fondent à vue d'œil. Il y en avait 200 en tout dans le Calvados voilà 15 jours, 100 la semaine d'après, 75 aujourd'hui. Les employeurs les retirent. Ils hésitent, préfèrent voir venir. C'est pareil dans chaque secteur, bloqué, en position d'attente, partout et pour tout le monde. Ce matin, elle a entendu à la radio un homme politique prophétiser la révolution. Il disait que les Français allaient descendre dans la rue très bientôt. Elle fait les yeux ronds. Il paraît soudain très bleu.
La révolution, c'est n'importe quoi. Les gens ont bien trop peur. En tout cas, ce n'est pas grave, Madame Aubenas. Moi, je crois en vous. Vous allez voir, vous vous en sortirez. Et même, vous allez réussir. Vous êtes un de mes meilleurs dossiers.
À vrai dire, j'en suis moins sûre qu'elle.
C'était « Le quai de Ouistreham » de Florence Aubenas, adaptation Nadine Egels. Troisième épisode avec Hélène Losseur et Françoise-Henri Kummer, Grégory Kidel, Laurent Cléry,
Josette Stein, Françoise Gaziot, Muriel Brenner,
Sophie Bourrel, Julia Védis-Bogard. Équipe de réalisation Olivier Dupré, Adrien Roch, Julie Guenet, Jean-Mathieu Zong. Le quai de Ouistreham est publié aux éditions de l'Olivier.
Messieurs, dames, bienvenue pour cette première. Cette soirée pour dire oui au refus de la misère. Grâce à vos dons, à votre grandeur d'âme, la France d'en bas secours, enfin la France qui gagne. Vous savez que l'argent ne fait pas le bonheur. Dans 3 heures je veux voir exploser le compteur. Plus grande sera votre générosité, plus confortable leur parachute doré. Oser la charité quand je pense à tout ce que l'on pourrait faire si vous aviez la décence d'être un peu moins sectaire. Renflouer la sécu en taxant les métastases. Sauver l'avenir des banques en prélevant à la base 100% du budget prévu pour l'éducation. Et je vous parle même pas de l'effet papillon. Un chemin en fin de droit pendu dans le Maine-et-Loire. C'est un trader à New York qui reprend espoir. Connu mais des comme vous jamais. Vos oursins dans les poches, me dites pas que c'est pas des vrais. Je veux pas faire de chantage, vous dire combien ils souffrent. Mais voyez cette image d'un patron au bord de gouffre. Il vient juste de comprendre qu'il n'aurait pas de stock option pour la Porsche 911 des 18 ans du fiston. Vous êtes au moins conscient qu'il peut s'ouvrir les veines à n'importe quel moment et se jeter dans la Seine. Si vous faites pas pour vous, faites-le au moins pour eux. Je vous parle de banquiers.